Chers amis auditeurs, bonjour. Sur le plateau de l'émission Écho d'Église, je reçois aujourd'hui Jacques Allary.
Bonjour.
Alors Jacques, je rappelle s'il le faut que vous êtes responsable et délégué à l'œcuménisme pour le diocèse de Cahors. Alors, il y a un mot qui m'interpelle évidemment. Délégué diocésain, on peut savoir éventuellement ce que c'est, mais le mot œcuménisme. J'ai pris sur le Larousse une banale définition, je suppose que vous la connaissez, Jacques. Alors, c'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Tendance idéale à vouloir l'union entre toutes les personnes professant des confessions différentes. Alors, Jacques, est-ce que vous pourriez me faire écho à cette définition?
Oui, alors, effectivement, oui, c'est à peu près la définition du mot œcuménisme, qui en réalité vient du grec oikoméné, qui veut dire maison commune.
Oui.
Ça veut dire maison commune, et l'œcuménisme est habituellement défini, effectivement, comme la recherche, le mouvement, qui permet la recherche de l'unité entre toutes les confessions chrétiennes, c'est-à-dire qui se réclament du Christ.
Oui, on parle bien de confession, on ne parle pas de religion, on est bien d'accord.
Ah oui,
parce qu'il y a tendance un petit peu à un amalgame à ce sujet.
La religion, c'est encore une autre thématique qui vient du latin, cette fois-ci religare, c'est-à-dire ce qui relie. On peut dire que ce qui nous relie au Christ, c'est le Christ.
Absolument.
D'où le nom de chrétien. Donc quand on parle des églises chrétiennes, on peut parler des églises chrétiennes ou des confessions chrétiennes, c'est l'ensemble des églises ou des confessions qui se réclament du Christ, qui professent la même profession de foi.
D'accord, très bien. Et donc, vous êtes sûrement au courant, Jacques, que le 5 décembre dernier, le pape a reçu la délégation œcuménique de l'Église luthérienne de Finlande. Et alors, au niveau de cette rencontre, le pape a rappelé quelque chose qui est important, une phrase qui dit « Le chemin œcuménique n'est pas une option ». Déjà, votre réaction par rapport à ça?
C'est pas nouveau. Hein. Depuis très longtemps, on dit que l'œcuménisme, c'est-à-dire la recherche de l'unité de l'ensemble des chrétiens, n'est pas une option. Pourquoi c'est pas une option? Parce que, d'abord, la nécessité de l'unité se fonde sur la prière de Jésus lui-même, et pas n'importe quelle prière. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ,
oui,
c'est-à-dire la dernière prière qu'il a adressée à son Père avant la Passion. Et cette prière est relatée dans l'évangile de Jean, et en résumé, Jésus demande à son Père que les disciples qu'il laisse sur terre avant de partir, de revenir vers lui, je cite, qu'ils soient un. Il soit un,
indivisible.
Comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, et qu'ainsi le monde croit. Et là, tous les mots ont leur sens.
Tout à fait.
On voit le sens de l'unité. Unité entre mes disciples. Il prie son Père pour que cette unité se fasse et se garde entre tous ses disciples. Mais pas pour n'importe quoi, pour que le monde croit, c'est-à-dire que vous donniez au monde le témoignage que vous êtes unis. Alors on voit bien là l'écart qu'il peut y avoir entre cette prière du Christ
et ce qu'on en a fait et la réalité. Voilà.
Et ce qu'on en a fait, on en a fait quoi? Des guerres entre églises, entre chrétiens, entre catholiques et orthodoxes, avec le saccage de Constantinople en 1054. Avec les protestants et les guerres de... Là, pour le coup, c'est guerre de religion, c'est-à-dire à Saint-Barthélemy,
oui,
etc. Et ça continue encore aujourd'hui, hein, parce qu'on voit nos frères orthodoxes qui, entre Moscou, par exemple, et Constantinople, se déchaînent les uns contre les autres, sont au bord de l'excommunication, comme à l'époque. Voilà. Donc, on en a fait ça. Alors, dire que l'œcuménisme, c'est pas une option, il a tout à fait raison. Et c'est pas nouveau qu'on le dise et qu'on le pense, parce que véritablement, si on veut être, cohérent avec le Christ, et si on veut suivre le Christ, il faut écouter cette prière qu'il a fait à son Père, donc travailler sans cesse et inlassablement à l'unité. Alors, pape contre pape, ou pape avec pape, moi j'avais noté là une citation de Jean-Paul II, qui est intéressante, et que je lis, pour ne pas la déformer. Dieu veut l'Église parce qu'il veut l'unité. Dieu veut l'unité. Et que dans l'unité s'exprime toute la profondeur de son amour. Cette unité donnée par l'Esprit Saint, c'est pas nous qui allons la faire, c'est l'Esprit Saint, il a raison, ne consiste pas seulement dans le rassemblement des personnes qui s'ajoutent les unes aux autres, c'est une unité constituée par les liens de la profession de foi, le credo, des sacrements et de la communion hiérarchique. Voilà ce que dit le pape. La recherche de l'unité est inscrite dans la vocation de l'Église. Donc c'est pas quelque chose qui est fantaisie ou accessoire.
On revient que c'est pas une fantaisie, voilà. C'est pas un phénomène de mode comme on peut dire maintenant, voilà. Et donc effectivement, je vais dans le sens de ce que vous dites là, parce que le pape rajoute dans son discours lorsqu'il a reçu cette délégation luthérienne de Finlande, quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l'évangile et que nous servons les pauvres et les nécessiteux. Ça vous parle, Jacques, puisque avec le Secours catholique et tout ce que vous faites, nous nous retrouvons nous-mêmes sur ce chemin et le chemin lui-même progresse vers le but de l'unité visible. On est tout à fait en accord sur ce sujet-là. Alors donc, merci, parce que c'est un remarquable témoignage à ce niveau-là. C'était intéressant de rappeler un petit peu les choses, parce que et de rappeler que ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, à l'instant, un phénomène de mode. Que ce n'est pas parce que voilà, on est dans l'Église, on a inventé quelque chose.
L'unité, c'est un témoignage. Voilà. Mais d'ailleurs, ça se comprend. Imaginons une famille, quelqu'un qui verrait de l'extérieur une famille serait totalement désunie, avec des enfants qui seraient en rupture, qui seraient partis.
Comme on en voit quand
avec
même
des parents qui seraient partis chacun de leur côté, mm-hmm. des grands-parents qui renieraient leurs propres enfants, etc. Qu'est-ce qu'on dirait vu l'extérieur ? On dirait, c'est un mauvais témoignage.
Voilà. Ça manque d'unité.
Nous, on est famille du Christ. On est la famille du Christ. Le Christ, c'est l'Église. On est le corps mystique du Christ, l'Église. Donc, si l'Église est désunie, ça veut dire que le Christ est désuni. Mm-hmm. Et quel témoignage ça donne à l'humanité d'un Dieu qui est amour ?
Oui, absolument.
Ça donne un contre-témoignage. Donc, l'unité, c'est vraiment essentiel.
Et c'est vrai que je vais dire une phrase, mais j'enfonce une porte ouverte, on va dire, qu'à l'heure actuelle, au moment où nous vivons cette pandémie que nous vivons, tout ce qui se passe autour de cette épidémie, le mot « unité » dans sa totalité est très très important. Mmh. Et donc, effectivement, absolument. L'unité entre les confessions encore plus. Alors, Jacques, vous êtes délégué diocésain. Pour le diocèse de Cahors, est-ce qu'il y a longtemps, enfin depuis combien de temps vous faites cela, Jacques ?
Je ne saurais pas
dire. Depuis quelques temps déjà ?
Oui, oui, ça doit faire 7 ou 8 ans. Oui.
D'accord, c'était déjà sous Mgr Thuring, qui vous avait nommé.
Oui, oui.
D'accord, très bien. Et donc, en tant que délégué diocésain, est-ce que ça existe dans d'autres diocèses, qu'il y a un délégué par diocèse ?
Absolument, il y a un délégué par diocèse et il y a un délégué national. Et il y a un secrétariat national... auprès de la conférence des évêques à l'unité des chrétiens.
Très bien. Et donc,
qui est aujourd'hui conduit par quelqu'un d'extraordinaire, qui est le père Emmanuel Gougaud. Et ce secrétariat à l'unité est situé au lieu de la conférence des évêques, c'est-à-dire rue Breteuil à Paris.
Oui, effectivement. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que vous avez des rassemblements, des rencontres entre vous, au niveau provincial et au niveau national?
Alors, nous avons une rencontre provinciale annuelle, en général à Montauban, mais mm-hmm. elle pourrait également se faire dans le Lot, qui réunit donc tous les délégués de la province, Toulouse, le diocèse de Tarbes, d'Auch, de Montauban et de Cahors. Il y a ensuite une rencontre des délégués nationaux à la maison de la conférence des évêques rue Breteuil, à Paris.
Dont vous parliez tout à l'heure.
Et il y a un congrès qui se tient en général au mois de novembre, le plus souvent à Lyon.
D'accord.
Voilà. D'accord. Sur deux, trois jours où nous dialoguons, toute confession. Alors là c'est élargi aux autres confessions. Chrétienne,
oui.
Que sont l'Église protestante unie de France, le CNEF, le Conseil des évangéliques, les orthodoxes,
les anglicans,
voilà.
Je suppose.
Les anglicans également, où nous réfléchissons sur un point théologique ou une question d'actualité.
Donc c'est très bien structuré, c'est vraiment au cœur de l'Église, ça on s'en rend compte maintenant avec ce que vous dites là. Et est-ce que tous les diocèses ont à peu près les mêmes confessions, ou il y a des diocèses où il y a plus de confessions, d'autres où il y en a moins, où les catholiques protestants sont plus représentés, les orthodoxes,
évidemment variable, et c'est variable selon la sociologie locale. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Lot, nous avons dans nos groupes œcuméniques, il y a deux groupes œcuméniques dans le Lot, celui qui est à Cahors, qui couvre, on va dire, tout le sud du Lot, et un qui se réunit à Gramma, qui couvre tout le nord du département.
D'accord.
Alors, il y a déjà des divergences sociologiques entre nous, c'est-à-dire que, par exemple, dans le nord, il n'y a que des catholiques et des protestants.
Mais dans le sud,
il n'y a pas d'orthodoxe, alors que nous, dans le sud, nous avons une représentation orthodoxe, une représentation protestante, une représentation évangélique, et une représentation anglicane, bien sûr, et récemment de l'Église d'Écosse.
Ah oui, effectivement.
Voilà, donc, alors après, il y a des départements où il n'y a pas de représentation anglicane. Département du centre de la France, par exemple.
Oui, ça dépend après où
voilà,
sont
ça dépend des diocèses.
Sont placés. Voilà, ça dépend des diocèses et ça dépend également de la population qui y figure. Donc très bien. Donc là, on a vu le côté structurant de cet œcuménisme de au sein des diocèses. Donc vous avez parlé, donc il y a deux groupes dans le Lot. Est-ce que les deux groupes communiquent ensemble, font des choses ensemble, ou c'est le nord, le sud et coupure?
Alors, on a deux manières différentes de fonctionner. Le groupe œcuménique, alors je suis naturellement en qualité de délégué les deux, et je vais aux réunions des deux, mais le groupe du nord du Lot se réunit une fois par trimestre, en général, une fois par trimestre, et... travaille sur des questions très théologiques. Le sud du Lot, c'est un peu différent. On se réunit de manière bimensuelle et là, nous traitons de problèmes plus actuels, peut-être, plus relatifs à l'œcuménisme de l'action, comme on dit souvent, c'est-à-dire aux œuvres caritatives, etc., l'ouverture au monde. Et puis on essaie, alors le groupe du Nord est relativement statique, on va dire, c'est pas péjoratif hein, au niveau de l'évolution, mais il est
présent, statique mais présent.
Voilà, statique, c'est-à-dire qu'il a, au niveau de sa composition, il n'y a pas eu d'évolution.
Il n'y a pas eu de renouvellement, pas d'évolution.
Des renouvellements, si, mais pas d'évolution au niveau de l'extension à d'autres confessions. Tandis que nous efforçons...
Quand vous dites vous, c'est-à-dire le groupe
le
sud.
Le groupe sud.
Voilà.
Le groupe sud, oui, je devrais dire le groupe sud. Et peut-être plus sensible à l'ouverture à d'autres confessions. Notamment, et récemment, nous avons invité nos frères... chrétiens évangéliques, ce qui n'est pas évident, à nous rejoindre. Alors il y a deux églises évangéliques sur Cahors, par exemple, l'une qui n'est pas venue à notre invitation, l'autre qui est venu, qui collabore bien, avec laquelle on a fortement...
De grandes relations.
Voilà, on a tissé de très fortes relations. Il faut savoir que jusqu'à présent, le mouvement œcuménique, là je dis au plan national, voire international, n'était pas très ouvert aux églises évangéliques, parce qu'évidemment, dans ces églises, on y trouve un peu de tout, quelquefois, oui. Avec des groupes évangéliques qui sont quelquefois un peu en marge de nos convictions. Donc, on se réfère, alors on s'est ouvert au plan national aux églises, à certaines églises évangéliques, notamment les Assemblées de Dieu, parce qu'elles sont, alors on prend comme référence les églises qui ont adhéré au CNEF, au Conseil National des Évangéliques de France.
D'accord.
Voilà.
Effectivement.
Ça nous permet de, oui. De ne pas, comment dire, de ne pas aller vers des églises évangéliques qui sont quelquefois un peu en marge de...
Et donc quand vous dites les églises évangéliques, vous êtes, je vous sens content d'avoir, heureux de cette perspective. Est-ce que l'approche a été facile, simple, ou est-ce qu'il y a eu un petit peu de méfiance de la part des églises évangéliques ou pas, notamment celle qui est venue avec vous?
Alors, au niveau de... Oui, il y a toujours un peu de réticence.
Je vous pose la question parce qu'effectivement, on sait très bien que l'Église évangélique, il y a quelques réticences.
Voilà, il y a des réticences plutôt que des méfiances. Mais on est invité. Nous sommes invités, les diocèses, quand je dis nous, c'est les diocèses, nous sommes invités par notre secrétariat à l'unité nationale à nous ouvrir à nos frères évangéliques. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que leur façon d'évangéliser, qui a souvent été critiquée.
Oui, effectivement.
Quelquefois à bon escient. Et,
oui, d'où les réticences.
Voilà, qui a été critiquée quelquefois à bon escient, nous incite à réfléchir, nous, les catholiques, à notre façon d'évangéliser. Et on n'est pas très bon, nous, au niveau de l'évangélisation, il faut bien le dire, hein. Alors qu'eux sont très bons, alors avec des choses quelquefois qu'on n'a pas adoptées parce qu'elles ne sont pas dans nos normes, mais on a aussi à apprendre d'eux, il faut avoir l'humilité, comme on a su le faire avec nos frères protestants et nos frères orthodoxes, on a eu l'humilité de comprendre qu'on avait des choses à apprendre d'eux. Donc c'est toujours intéressant.
Très bien, donc vous avez parlé naturellement du groupe Nord, du groupe Sud, et vous êtes de toute manière, on va dire, en unité, pour la semaine de l'unité qui a lieu au mois de janvier. Enfin, c'est du 18 au 25 janvier.
Alors c'est tous les ans, du 18 au 25 janvier. C'est une semaine de l'unité qui remonte aux années 30, qui a été créée par le père Couturier, qui était un précurseur de l'œcuménisme, qui a créé cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se déroule donc tous les ans du 18 au 25 janvier.
Oui.
Alors cette année, alors chaque année elle est préparée par un pays
du
monde.
Différent, oui, chaque année c'est différent.
Voilà. Cette année c'est intéressant, très intéressant, parce que c'est sur le thème de la vigne, et c'est sur le thème, c'est sur ce passage de Saint Jean qui relate une parole de Jésus, « Demeurez dans mon amour », ça rejoint ce que je disais au début de mon propos, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Et « Demeurez en moi, comme puisque je suis le cep de vigne, vous êtes les sarments, enfin je suis la vigne, dit le Christ, vous êtes les sarments, et mon Père, Dieu, est le vigneron. » Voilà, donc ça c'est le thème de cette année de
c'est très beau,
préparer
ça...
par une communauté...
C'est très beau comme thème, le thème est magnifique.
Ouais, le thème est magnifique parce que ça veut dire que quand on se coupe de Dieu, ben on se coupe de l'amour de Dieu, donc on n'est plus témoin de quoi que ce soit, et on ne produit plus le fruit.
Et voilà.
Et le fruit de notre production, c'est le témoignage.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et quand on coupe un cep, effectivement, il ne rend plus de fruit.
C'est ça. Voilà, donc, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le Père vigneron, Dieu vigneron, c'est celui qui c'est actuellement l'époque d'ailleurs, coupe, taille à vigne. Et pour qu'elle produise, il faut la tailler. Oui. Comme nous les hommes, nous avons besoin d'être taillés par le Christ, par Dieu, régulièrement pour produire des fruits. Sinon, on s'étiole. Hein. Si on laisse pousser le sarment sans le tailler,
oui, il finira par donner
des raisins voilà, qu'on appelle verts, des raisins verts voilà. Qui ne mûrissent pas. Voilà, alors cette semaine de l'unité, elle est préparée cette année par une, là aussi c'est intéressant, par une communauté de sœurs qui est à Grandchamp. Mmh. Alors, Grandchamp, c'est à côté de Neuchâtel, c'est
oui,
en Suisse.
Tout à fait.
Sur les bords du lac Léman. Et donc, ce sont une cinquantaine de femmes de l'église réformée de Suisse qui et ses sœurs ont préparé cette semaine de prière.
D'accord.
Et la préparation est assez intéressante.
D'accord. Mais écoutez, Jacques, merci beaucoup. Nous vous réinviterons pour parler justement spécifiquement de la semaine de l'unité du 18 au 25 janvier, pour un petit peu tous les détails de cette semaine de l'unité, ce qu'il va se faire dans les différents groupes.
Avec plaisir.
Donc merci beaucoup Jacques de nous avoir éclairé sur l'œcuménisme. C'est très important, on est bien au cœur de l'Église. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission des Échos d'Église. Et à très bientôt pour une autre thématique tout aussi intéressante. Nous allons écouter un chant qui s'appelle « Nous chanterons pour toi Seigneur » et qui parle justement de l'œcuménisme et qui parle de l'unité des chrétiens. Au revoir à tous, au revoir Jacques.
Au revoir.
Et merci.